Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus sur Canal Académie dans cette émission Au fil des pages, votre émission littéraire hebdomadaire, une émission où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités de marque, Madame Hélène Carrère-Dancausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et Madame Mireille Pastoureau, conservateur, directeur de la bibliothèque de l'Institut, pour parler, vous vous y attendez, de la langue française, du fameux dictionnaire de l'Académie bien sûr, mais aussi de beaucoup d'autres ouvrages qui compose le fond de cette exceptionnelle bibliothèque. Madame Carrère-Dancausse, vous présidez la commission du dictionnaire de la langue française. Comment s'effectue le travail de cette commission? Combien de fois se réunit-elle? Quels sont les collaborateurs? Comment se font les décisions? Expliquez-nous.
Alors, je vais vous expliquer parce que, d'abord, il y a à la fois une tradition et il y a désormais un rôle nouveau de l'Académie sur lequel je voudrais dire un mot.
Bien sûr.
Alors, il n'y a pas que la commission. Le dictionnaire, c'est l'abord. Il s'élabore, je dirais, au sein de la séance de l'Académie, qui est une séance hebdomadaire, qui se tient le jeudi après-midi. Toute l'Académie se prononce sur le dictionnaire. Mais en plus, parce que ça n'irait pas très vite, et déjà ça ne va pas vite, en plus, il y a une commission du dictionnaire qui, elle, siège tout le jeudi matin. C'est-à-dire que pour ceux qui sont à la commission du dictionnaire, c'est un groupe de 12 personnes au maximum, mais en fait nous sommes 8-9, parce qu'il ne faut pas être nombreux pour bien travailler. Et ce groupe-là travaille d'une manière plus intense, il faut bien le dire, parce que lui travaille plus de 3 heures sans interruption. Et traditionnellement, l'Académie et la séance plénière et la commission du dictionnaire faisaient le même travail, travaillaient au même volume. J'ai changé cela parce qu'il m'a semblé que ça n'était pas une très bonne méthode. En séance, on travaille lentement parce qu'on parle d'autre chose. D'abord, il n'y a qu'une heure et demie de séance, nous avons un procès-verbal, nous avons à discuter. Donc, en définitive, le dictionnaire, on y consacre 3 quarts d'heure, ça ne va pas vite. Et puis, quand il y a 30 personnes en séance, ça va encore moins vite. Alors, je suis retourné à une tradition que j'avais vue à la fin du règne de Louis XIV. Louis XIV avait été irrité en voyant les lenteurs du dictionnaire et on avait créé 2 bureaux du dictionnaire, chacun faisant une partie du travail. J'ai trouvé que c'était une bonne méthode et j'ai décidé que le dictionnaire a déjà vu dans sa 9e édition, puisqu'on en est à la 9e édition, et il a vu paraître 2 tomes, le premier qui s'arrêtait à EN et le second à MAP, Map Monde était le dernier mot. J'ai confié le 3e tome, qui sera fini dans 1 an et demi, à la commission du dictionnaire, et le 4e tome à la séance plénière. C'est-à-dire que les efforts sont dédoublés.
Parallèlement, en fait.
Parallèlement. En fait, la commission va arriver dans 1 an et demi au bout de l'effort, et là, elle va plus vite qu'on n'a jamais travaillé. Et déjà, le travail est entamé en séance, et la commission va reprendre, dès qu'elle aura fini le tome 3, une partie du tome 4 pour accélérer les choses. Donc, si vous voulez, c'est une méthode qui accélère, qui est plus efficace. Mais ce que je voudrais dire, et ça c'est très important, c'est que l'Académie a désormais, en matière de dictionnaire, un rôle tout à fait nouveau qu'elle n'a jamais exercé. Si vous voulez, elle a eu, le roi de France lui avait confié, en la créant, un magistère sur la langue. Ce magistère a longtemps été marqué d'une autorité réelle. Il y avait une reconnaissance de la fonction de l'Académie qui était quasiment officielle, que l'État lui donnait. Les choses ont changé. Aujourd'hui, l'information appartient à tout le monde, la connaissance appartient à tout le monde. L'Académie ne peut pas imposer par l'autorité sa conception du bon usage. Il est clair que tout un chacun, et la langue française est fractionnée. Tous les milieux croient qu'ils ont le droit de faire de la langue française, les publicitaires ont une langue française qui n'est pas la nôtre, etc., etc. Mais il y a un domaine tout à fait nouveau, qui est celui de la révolution des technologies, la révolution scientifique et technologique qui marque notre époque, qui a marqué la fin du XXe siècle et qui marque le début du XXIe, est extraordinairement rapide. On n'a jamais vu une telle transformation des sciences et des techniques et une telle apparition d'un vocabulaire adapté à ces sciences et ces techniques nouvelles. Quand on a inventé la machine à vapeur, c'était très simple. Elle a été inventée et il fallait un vocabulaire simple. La langue française y suffisait. Aujourd'hui, la révolution scientifique et technique se passe plutôt en dehors de la France. Le vocabulaire, ça tient à la mondialisation, mais aussi au poids écrasant du monde anglo-saxon. Le vocabulaire est plutôt anglais. Et l'adaptation de ces sciences, désormais, l'État a décidé qu'il fallait qu'elles se fassent dans des commissions de terminologie au sein de chaque ministère intéressé par cela. Actuellement, il y a 20 commissions de terminologie. Il y a une commission générale et le dernier mot appartient à l'Académie française, c'est à l'Académie française, et là, elle a un magistère autoritaire, elle retrouve celui que lui avait donné les rois de France. Alors c'est tout à fait fantastique, parce que d'une certaine façon, on dit, cette vieille dame du Quai Conti, bon, elle fait son travail, mais c'est très bien, tout le monde a le droit de dire quelque chose sur la langue, mais la vieille dame du Quai Conti, c'est la jeunesse du vocabulaire de demain. C'est elle, quand nous ne sommes pas d'accord, c'est fini. Il faut que les commissions recommencent leur travail. Et cette révolution, personne ne peut passer par-dessus notre avis. Et cette place dans la langue, dans l'adaptation, la francisation du vocabulaire des progrès accomplis, c'est une place considérable. Alors, je vais vous dire que ça pèse d'une façon effroyable sur la commission. Ça ne se traite pas en séance, ça n'est même pas pensable. C'est la commission du dictionnaire et notre service du dictionnaire, car nous avons des collaborateurs absolument remarquables, des agrégés qui préparent notre travail. Nous formons une équipe, si vous voulez. L'équipe, c'est le service du dictionnaire et la commission du dictionnaire. Les autres académiciens trouvent ça sympathique, mais ils ne savent pas très bien. Et ça, c'est un travail tout à fait nouveau, c'est-à-dire que nous dédoublons nos efforts dans les mêmes 3 heures. Nous consacrons de plus en plus d'efforts à l'examen de cette terminologie, et en même temps, nous devons faire avancer le dictionnaire. Et pour vous montrer à quel point ça pèse sur nous, quand ça a commencé, ça a été décidé en 1996, jusqu'en 2000, il y avait 8 commissions de terminologie, 4 d'abord, 8 ensuite. En gros, elles soumettaient par an une 20aine de termes à l'Académie. L'année dernière, nous en avons eu 400, des termes extrêmement compliqués. Et 400, c'est pas seulement 400, parce qu'il y a une navette. Il y a ceux qui reviennent 2 fois, 3 fois parce qu'on les a refusés. Et actuellement, toutes les semaines, nous en avons, la semaine dernière, nous avons examiné 40 termes dans la matinée, tout en continuant le travail du dictionnaire. Et ça veut dire que la dame du Quai Conti est jeune.
Elle a beaucoup de travail, en tout cas.
Oui.
J'ai entendu l'autre jour Monsieur de Breuil, donc chancelier de l'Institut de France depuis le 1er janvier 2006, parler de la commission des néologismes.
De terminologie et néologie, c'est
terminologie
ça.
Et néologie, c'est voilà. Donc bien la même commission dont on parle. Et expliquer que les décisions donc de l'Académie française, qui arrivent, comme vous l'avez expliqué, en dernier lieu, avait valeur normative.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expression ?
C'est-à-dire qu'on nous soumet. Tous les termes nous sont soumis, sans exception. Tout ce nouveau vocabulaire nous est soumis. Au fond, toute cette terminologie est élaborée dans des commissions particulières, dans chaque ministère. Ensuite, elle arrive à la Commission générale de terminologie et ethnologie. Et ensuite, tout cela nous est envoyé. Et c'est à ce moment-là que nous réfléchissons pour savoir si un terme est bien formé, s'il est acceptable, si ça n'est pas un calque tout simplement de l'anglais, s'il a des chances de s'implanter, car nous avons
aussi
une réflexion
oui.
sur l'opportunité d'un choix. Et puis, nous examinons la définition que l'on en donne, qu'elle soit en bon français, qu'elle soit compréhensible. Alors, vous savez,
ça
nous
fait
nous adaptons.
Travail.
Oui, c'est pas seulement, nous adaptons à des choses extravagantes, parce que nous avons à comprendre, il y a des termes de forage pétrolier. Qui de nous connaît quelque chose au forage pétrolier? Nous avons des termes de télécommunication.
Ce sont des termes qui sont beaucoup votre propre connaissance de la langue.
C'est-à-dire que nos spécialistes nous préparent des explications pour que nous ne donnions pas imbécilement des avis sans savoir si ça représente quelque chose de compréhensible.
Absolument.
C'est à la fois amusant, c'est difficile à faire, mais je dirais que c'est en ce sens que je crois que l'Académie a trouvé une nouvelle jeunesse et une nouvelle raison d'être.
Alors nous en sommes heureux, mais alors votre travail ne s'arrête pas là puisque vous présidez aussi la commission des bibliothèques et des archives. Et si je comprends bien, dans le cadre de ces fonctions, vous êtes amené à travailler avec Mireille Pastoureau. En quoi consiste alors cette commission des bibliothèques et des archives et la présidence que vous y assurez?
Alors d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup de plaisir à exercer cette fonction parce que je suis un peu un rat de bibliothèque, j'ai toujours une passion pour les bibliothèques, je considère que c'est ce qu'il y a de plus important dans le monde, mais c'est vrai, toute ma vie j'ai adoré ça, et la bibliothèque de l'Institut, la Mazarine, tout le monde le sait, c'est une bibliothèque publique, mais la bibliothèque de l'Institut, qui est notre bibliothèque des académiciens, ben, c'est un lieu béni, c'est le paradis, je dirais, des académiciens. Elle nous appartient, j'aimerais dire un mot de Madame Pastoureau,
oui,
dont la compétence, la sagacité et l'extrême gentillesse fait que tout nous est simplifié. C'est un bonheur extrême. Et puis alors, elle exerce ça avec une intelligence que moi j'admire énormément. Donc j'ai le sentiment que nous avons une relation directe qui est très importante. Alors, cette commission, car au fond, qu'est-ce que c'est que l'Institut? C'est la bibliothèque de l'Institut. L'Institut, c'est une structure. Mais les cerveaux, ce sont les académiciens. Il y a des cerveaux à la bibliothèque de l'Institut, mais les cerveaux sont les académiciens, la matière grise sont les académiciens.
Bien sûr, oui.
Il n'y a aucun jury de l'Institut qui puisse fonctionner si les académiciens ne prêtent pas leur matière grise. On ne trouverait personne. Il y a des administrateurs, ça s'arrête là. Eh bien, cette commission des bibliothèques, elle doit être, je dirais, gérée, elle est placée sous l'autorité de toutes les académies qui ont des représentants là, qui exposent leurs vœux, leur conception des choses, en fait, qui, avant tout, qui bénissent la bibliothèque et celle qui la dirige. Mais nous avons donc les deux bibliothèques sous notre houlette, d'une certaine manière, et nous devons nous prononcer sur toutes les questions qui se posent. Madame Pastoureau, elle sait ce qu'il faut comme livre, elle accueille ça, elle gère tout cela, et elle dirige la bibliothèque. Mais quand on lui demande des prêts, quand il y a une exposition, toutes les questions, je dirais, qui sortent de la vie de la bibliothèque, c'est à la commission des bibliothèques de se prononcer sur cela.
Voilà, alors nos auditeurs, quand ils écouteront désormais la chronique de Mireille Pastoureau sur la vie de la bibliothèque, puisque c'est le titre de sa chronique, on saura qu'il y a une commission des bibliothèques et des archives qui se prononce et qui travaille avec vous. Alors Mireille Pastoureau, quelques mots sur les trésors de cette bibliothèque. Avez-vous trouvé des trésors féminins qui vont être une surprise pour nous?
Oui, alors si vous le permettez, j'évoquerai d'abord des personnes qui sont nos donatrices. Ce sont les premiers trésors. Nous avons un grand nombre de donatrices qui sont des filles et des veuves d'académiciens. Et Madame Cardancos, présidente de cette commission de tutelle de la bibliothèque, fait beaucoup pour faire entrer des fonds à la bibliothèque, parce que le premier travail d'une bibliothèque, c'est d'acquérir, c'est d'engranger. Après, il faut conserver, il faut cataloguer, il faut communiquer. Mais d'abord, il faut engranger. Et donc, nous avons beaucoup de filles d'académiciens. Alors, je ne parlerai pas des vivantes pour ne pas en oublier, mais par exemple la fille de Condorcet qui a donné tous les papiers de Condorcet, lui-même détenait les papiers de D'Alembert, et donc beaucoup encore d'autres. Actuellement, il y a des dons en cours, donc voilà. Et ensuite, si vous voulez, on peut entrer dans la bibliothèque et imaginer que vous avez une petite exposition sur les tables préparée à votre intention. Alors, dans les bibliothèques, on distingue les manuscrits et les imprimés. Si vous voulez, parmi les manuscrits, nous pourrions présenter dans cette exposition, eh bien, un très beau fonds Georges Sand, qui vient du vicomte Spelberg de Lovenjoul, qui était belge, mais qui a légué à la France sa collection de manuscrits littéraires. Et il vivait à l'époque de Georges Sand, il l'a un peu connu, il voulait l'aider à réimprimer ses œuvres. Il l'admirait beaucoup et il a acheté un grand nombre de ses archives. Le vicomte de Lovenjoul est un pionnier des archives littéraires. Il est l'un des premiers à avoir vu l'intérêt des manuscrits, des documents, des correspondances, et il a réuni une collection qu'il a donnée à l'Institut en 1907.
Béni soit-il. Donc vous avez des richesses de Georges Sand, encore
voilà.
D'autres
faits. Oui, femmes. Par exemple, comme femme, on ne s'attendrait pas à trouver la correspondance d'Anna de Noailles, qu'elle a pourtant léguée à la bibliothèque de l'Institut. Alors nous avons la partie des lettres reçues, c'est-à-dire beaucoup de lettres de Maurice Barrès, près de 400, puisqu'ils ont échangé une correspondance amoureuse, il faut le dire, longtemps platonique. Et alors elle lui en a écrit, elle, plus de 500. Elle était très expansive, elle écrivait plus que lui. Mais nous avons toutes ces lettres de Maurice Barrès qui n'ont pu être publiées qu'en 1991. Il est mort en 1923, mais il y avait une réserve de publication. Mais maintenant, tout cela a été fait par des spécialistes, donc c'est une source intéressante. Et puis également, nous pourrions nous intéresser au fonds que Marie de Régnier a légué à l'Institut. Marie de Régnier, vous savez, était fille d'académicien, c'était la fille de José Maria de Heredia, c'était l'épouse d'Henri de Régnier. Elle-même a eu une œuvre littéraire sous le nom de Gérard Douville, elle a beaucoup compté, et elle a légué toute une quantité de papiers, non seulement familiaux, mais aussi personnels. Elle les a légués à la bibliothèque de l'Institut.
Voilà les richesses de cette bibliothèque. Vous voyez que, je crois, Madame Carrère-Dancos, que si vous écoutez Canal Académie, je crois que la rubrique de Mireille Pastoureau vous passionnera, parce qu'elle est très importante pour découvrir toutes ces richesses. Y a-t-il d'autres choses que vous aviez envie de nous faire découvrir?
Voilà, donc ça c'était des manuscrits, c'est-à-dire des documents écrits à la main, des autographes. Mais dans les bibliothèques, nous avons aussi beaucoup d'imprimés, des livres. Alors là, on a l'embarras du choix. C'est vrai qu'à l'Institut, on trouve surtout des livres écrits par des hommes. C'est une institution assez masculine, mais si je faisais une exposition, je mettrais le livre de Marie de Gournay du XVIIe siècle, qui s'appelle « Les avis ou présents de la demoiselle de Gournay », qui a été l'éditrice de Montaigne et qui a joué un grand rôle dans les milieux littéraires de son temps et dans le domaine de la langue française, qui a donné son avis. Elle était favorable aux emprunts et à la diversité des manières de parler afin d'enrichir la langue et de la garder vivante. J'ai également trouvé, un petit peu par hasard, mais enfin, une édition originale de La Princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, ce qui est toujours intéressant.
Bien sûr.
Et puis un herbier du XVIIIe siècle, écrit par une dame anglaise qui s'appelait Elizabeth Blackwell, qui a fait un volume sur les plantes, qui donc est une contribution scientifique. nous pourrions continuer beaucoup.
Continuer.
J'ai été très amusée de voir un livre qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans une bibliothèque savante, qui date de 1811. Ce sont les conseils d'une mère à sa fille par la marquise de Lambert. Et je peux vous lire un petit extrait. Le silence convient toujours à une jeune personne. Vous jugez les autres et vous ne hasardez rien. Mais comme on ne peut pas toujours se taire, il faut savoir que la première règle pour bien parler, c'est de bien penser. Comptez peu, narrez d'une manière fine et serrée. Il faut, quand on parle, plaire ou instruire.
Voilà une très jolie citation. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça ravissant, mais je voudrais dire quelque chose si vous me donnez une seconde la parole. On a évoqué le fond George Sand. Je voudrais dire que elle aurait dû être à l'Académie française. Oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. À cette époque, on n'envisageait pas qu'il y ait des femmes à l'Académie. Mais elle fait partie des personnalités féminines que l'Académie a souvent saluées.
Je partage votre point de vue tout à fait. Madame Carrère-Dancausse, nous aurions pu parler d'une troisième présidence que vous assumez dans vos fonctions, celle de la commission de la francophonie. Est-elle extrêmement prenante aussi?
Ah ben, ça fait partie des commissions, des prix de l'Académie. Nous avons,
oui,
et il n'y a pas qu'une troisième.
Parler un peu de ces prix. Oui,
nous
oui.
avons beaucoup de commissions. Vous savez, l'Académie, je l'ai dit un jour, l'Académie vit de ses ressources pour l'essentiel. Je crois qu'elle vit à 92%, 93% de ses ressources. Nous ne sommes pas une institution de l'État. Nous sommes totalement indépendants. Plus que, par exemple, que l'Académie des sciences. L'Académie des sciences, parce que la science exige beaucoup plus d'argent, ça n'est pas tout à fait pareil. Mais nous sommes d'une très grande indépendance. L'Académie vit des fondations. Elle a depuis les origines. Il y a eu des fondateurs qui ont été très généreux à son égard. Mais ces fondations ne sont pas destinées à permettre aux académiciens de mener une folle vie. Pas du tout. Ça n'est pas fait pour eux. C'est fait pour récompenser ceux qu'ils tiennent pour le mérite littéraire, le mérite jamais scientifique, mais parfois à la limite du mérite artistique, le mérite de l'existence,
ou
le mérite de l'existence, absolument. Il y a un prix de vertu, le prix Montyon, qui maintenant n'est plus donné à des jeunes filles vertueuses, mais enfin, il en reste le discours
Combien
sur la vertu.
Combien de prix l'Académie française décerne-t-elle environ?
Oh, elle décerne une centaine de prix.
Une centaine de prix
et
chaque
dont,
année.
Alors, je voudrais ajouter, nous avons un gros mécénat social, ce qui est totalement ignoré. Et l'Académie, ça fait partie des fondations que nous avons. Nous occupons de beaucoup de déshérités, à la fois des familles. Nous avons des prix pour les familles nombreuses, nous avons des prix Cognac-Jay. Nous avons des prix pour des veuves de marins perdus en mer, pour des veufs. J'ai fait inscrire désormais les veufs, parce qu'il y a des malheureux veufs ou des hommes seuls qui élèvent des tas d'enfants. Nous avons des prix pour des handicapés. C'est un très très gros mécénat.
Un mécénat humanitaire, social,
oui. Alors tout cela, ce sont des commissions. Nous avons, ça c'est la commission des œuvres sociales. Nous avons une trentaine de commissions littéraires. Nous avons à la fois les commissions de fondation et puis les commissions des grands prix. La commission du prix de la francophonie, elle est dans cette catégorie-là, comme la commission du grand prix du roman. C'est un prix bien doté. Et cette commission, elle, elle est destinée non pas à une œuvre, elle est destinée véritablement à une personnalité qui aura œuvré pour la francophonie, parfois à l'œuvre d'un francophone, parfois à une personnalité. Il y a 2 ans, nous avons donné ainsi le prix de la francophonie au Polonais Bronisław Geremek, qui, bon, il a été ministre des Affaires étrangères, mais il était surtout un médiéviste. Je dis il était parce que n'a pas le temps de se livrer à ses travaux. Il a été un médiéviste extraordinaire dont la spécialité francophone, il a tout écrit en français, la spécialité, c'était les marginaux en France à l'époque médiévale. Et les marginaux et les semi-délinquants. Donc nous essayons de récompenser tous ceux qui œuvrent pour la francophonie.
Je voudrais, Madame Carrère-Dancausse, avant de vous remercier, citer ce merveilleux discours de réception sous la coupole, le jeudi 28 novembre 1991. Vous vous adressez à vos confrères en ces mots. En m'accueillant, messieurs, dans votre compagnie, que votre illustre fondateur voulut lieu de mémoire et de défense de la culture française, en me plaçant, quel signe du destin, dans la lignée de Corneille, de Victor Hugo, du maréchal Lyautey et du comte Robert d'Harcourt, pour ne citer que, vous avez répondu au rêve de l'enfant que je fus. Madame, une dernière question avant de nous quitter. Quand le rêve devient réalité, que ressent-on?
Mais je crois qu'on ressent le sentiment d'un cadeau permanent. On a le sentiment que quelque chose vous est donné. C'est pour ça d'ailleurs que je m'indigne quand les gens oublient les miracles qui se passent sur Terre. Moi, tous les jours, je me dis, mais c'est fantastique ce qui m'est arrivé. L'enfant que j'étais, et je l'avais dit dans ce discours, elle souhaitait être française, elle avait la passion de l'histoire de ce pays et de la littérature. C'était les matières dans lesquelles j'ai toujours été la meilleure. C'est là-dessus que j'ai passé mon bac. Enfin, tout ce que j'ai fait, ça tenait sur la passion que j'avais pour ces sujets. pas seulement l'histoire de France d'ailleurs. D'abord, j'ai été biculturelle et même triculturelle, mais ça a été les points d'appui de toutes mes études. Et l'entrée à l'académie me donne la possibilité de vivre cela à chaque instant. Donc j'ai l'impression d'avoir reçu un cadeau du ciel absolument fantastique.
Merci Madame Carrère d'Encausse, merci Mireille Pastoureau. Notre émission Au fil des pages se termine ainsi, en vous remerciant très chaleureusement toutes les deux.